RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les grandes gueules. Avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie. Nous sommes avec Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire. Et Antoine Diers, le consultant auprès des entreprises. Que va-t-il se passer dans la dernière heure des GG? Au cours de laquelle vous allez pouvoir prendre la parole, bien sûr, au 32-7, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout à l'heure, on reviendra. Je vous jure que c'est pas une blague. Il faut que je retrouve précisément. Voilà. Nous sommes dans la commune de Boivre-la-Vallée, dans la Vienne, qui a pris un arrêté municipal pour réglementer les aboiements de chiens.
On n'est pas loin de Chandonnier.
C'est, oui, dans les Deux-Sèvres, c'est pas loin de chez l'ami de Johnny Blanc. En fait, c'était des riverains qui étaient excédés par les aboiements de chiens. Bien évidemment, c'est pas l'arrêté municipal qui va les faire arrêter d'aboyer, mais c'est simplement pour dire à la population, le soir, quand il y a les fenêtres ouvertes, qu'il fait chaud et que vous laissez même peut-être vos chiens dans le jardin pour qu'ils s'aèrent, faites-les taire. Donc on est obligé de passer par un arrêté municipal. Vous venez commenter ça tout à l'heure à midi moins 20. On va regarder ce qui se passe du côté de Marseille. Marseille dont on a parlé pendant des années avec le cannabis. Maintenant, c'est Marseille Crackville. Maintenant, c'est le crack qui envahit la ville de Marseille autour de la gare. 500 consommateurs de crack qui se défoncent en pleine rue, qui se baladent dans Marseille. La dose, c'est 10 euros. Pareil, ça devient invivable. Il y a des associations qui se montent et qui demandent au pouvoir public d'intervenir. Donc là aussi, que Marseille appelle les GG sur ces histoires de crack. Vous venez en parler à 11h20. Et puisqu'on parle de la police, on va s'intéresser au coup de gueule des policiers ou anciens policiers contre leur ancien ministre, Gérald Darmanin. On l'a évoqué hier dans les grandes gueules, cette lettre que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, dans le sillage de l'affaire Liana, a envoyée à son homologue de l'intérieur, Place Beauvau, c'est-à-dire Laurent Nunez, pour pointer du doigt le manque d'enquêteurs, la faiblesse de leur formation dans le traitement des violences sexuelles. Et il pointait du doigt aussi dans ces histoires ce qu'on appelle les stocks de procédures fantômes qui attendent, qui n'ont pas été instruites, qui n'ont pas avancé. Du côté des policiers, on a poussé un sacré coup de gueule, tout syndicat confondu d'ailleurs, c'était à noter, pour dire de qui se moque Gérald Darmanin, quoi. Il a été notre patron et là il nous trahit, il nous met tout sur le dos en disant si les affaires de violences sexuelles n'avancent pas. Alors on a un ancien policier avec nous de la police judiciaire, c'est Jean-Pierre Colombiès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes souvent sur les plateaux de BFM TV pour parler des enquêtes, vous êtes venu présenter ici vous-même votre livre. Et vous faites partie de ces policiers qui s'estiment aujourd'hui vraiment, enfin qui est en colère après ce qu'a dit Gérald Darmanin, pourquoi ?
Pas en colère seulement depuis que Gérald Darmanin s'est exprimé, je suis en colère depuis plusieurs années par rapport au désintérêt total des politiciens, des politiques de tous bords, hein, d'ailleurs, par rapport vis-à-vis de la police judiciaire, vis-à-vis de la matière judiciaire. Moi, ça m'étonne pas du tout parce que on voit bien qu'il y a une sorte de jeu de patate chaude. Chacun essaie de se défausser sur les autres. Alors que tous, je dis bien tous, partagent la responsabilité de cet état des lieux. Vous parliez des syndicats de police. Je suis un petit peu surpris parce que ce sont les mêmes syndicats de police qui, il y a quelques temps, ont manifesté avec Gérald Darmanin, souvenez-vous, devant l'Assemblée nationale, contre la justice, oui, estimant qu'il n'était pas...
Pour dire
travail.
Le problème de la police, c'est la justice.
Absolument. Et on avait un ministre de l'Intérieur. Moi, j'avais jamais vu ça. Vous savez, j'ai passé 34 ans dans la police. J'ai fait quelques manifestations parce qu'il se trouve que j'ai été délégué syndical. C'est la première fois que je voyais un ministre de l'Intérieur aller serrer des paluches à des manifestants qui venaient manifester contre l'institution, quelle qu'elle soit, que ce soit la justice ou la police. Mais je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Et si je le fais, tant mieux. Est-ce que vous savez qu'il y a des services d'audit au ministère de l'Intérieur ? Est-ce que vous savez qu'il y a des services d'audit à l'IGPN ? Et que ces services ont pour vocation de faire l'état des lieux des dossiers en stock ? Pas depuis la semaine dernière, pas depuis l'affaire Liana, depuis toujours, depuis des années, c'est comme ça. On fait des bilans sur les stocks en cours. Donc quand je vois qu'il y a une sorte de jeu d'effarement, on joue à la Vierge effarouchée parce qu'on se rend compte qu'il y a des stocks considérables de dossiers en attente dans les services de police, et ailleurs, du reste, et que le parquet s'en émeut. Bon, j'ai eu des réunions avec le procureur de la République de Paris, dans un service parisien, un commissariat parisien, parce que nous avions 13 000 dossiers en souffrance. les fameux dossiers qui étaient, ils n'étaient pas fantômes, hein. Ils étaient là, bien rangés, dans une pièce aveugle, personne s'en occupait, ils dormaient là. Je parle pas d'agression de mineurs, attention, là, je parle
pas. Oui, parce que là, on parle de violence sexuelle. Choque, quoi.
Là, je parle pas d'affaires, d'affaires gravissimes, mais quand même. Là où je veux en venir, c'est que vous avez un jeu qui consiste à gérer un stock ingérable de plaintes, de dossiers parqués, parce que quand il y a énormément de plaintes qui vont directement au parquet, et le parquet, ne sachant pas en faire, parfois ne les lisant même pas, les transfère systématiquement au service de police. Donc on s'en inquiète pas plus que ça. On sait que ça va être enregistré, rangé.
Mais c'est pas de la faute des policiers, là. Si ces plaintes n'avancent pas, si ces 1275 procédures anonymes ne bougent pas, 905 à Caen, et qui concernent des affaires de violences sexuelles.
Et je termine sur ce stock. Vous allez comprendre pourquoi ça n'intéressait personne. Le service en charge de ces instructions parquet ne disposait d'aucun OPJ. Donc il était systématiquement obligé de faire appel à d'autres unités de la même entité pour régler des affaires.
C'est un manque de moyens, quoi, en fait.
Et bien sûr, un désintérêt, surtout.
Alors
un désintérêt total.
Pourquoi est-ce qu'on vous a pointé du doigt ?
Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de se retourner finalement sur le dernier maillon de la chaîne. Vous savez, il y a toujours cette caricature de l'oiseau qui est au sommet de la pyramide et puis qui chie sur tous les autres. C'est exactement ce à quoi vous assistez. On règle des comptes parce que les uns comme les autres n'ont pas fait leur boulot. Tout simplement. Voire même, loi aggravée. Et là, je fais référence à la réforme de la départementalisation de la police judiciaire qui est une catastrophe qui a créé ce que moi j'appelle des baronnies policières. On a créé des postes de directeurs partout, donc ça donne du grain à moudre au corps des commissaires notamment, qui à mon avis est bien mal inspiré aujourd'hui de pousser lui-même un coup de gueule, parce que c'est eux qui ont en charge la gestion de tout ça, et on s'est bien gardé au niveau ensuite des préfets de faire remonter cette information de non-gestion, parce qu'il y a aussi un gros problème de RH au niveau de la répartition des effectifs au sein de la police nationale. Il y aurait beaucoup à dire.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe là?
Moi, de l'extérieur, au moment de l'affaire Liana, je me demandais, est-ce que le politique a pas trop mis la pression sur le narcotrafic au détriment de ses affaires de mœurs, quoi? Est-ce que ça a vraiment joué là-dedans, ou est-ce que c'est un système qui fait qu'on traite 10% des plaintes qui arrivent parce que il y en arrive trop et on a pas assez de bras pour les traiter, quoi?
Vous apportez un peu la réponse. C'est un système. C'est-à-dire que ça fait des années, une vingtaine d'années à peu près, qu'on a mis le paquet sur le maintien de l'ordre, service d'ordre, la voie publique, les arrestations, faire du chiffre. Voilà. Et le judiciaire, enfin moi j'ai été inspecteur, je suis rentré dans la police comme inspecteur, pas comme officier de police. La nuance est importante. Mon métier c'était l'investigation. Et il y avait des enquêteurs et des inspecteurs qui ne faisaient que ça, l'investigation. Parce que c'est un métier, on ne devient procédurier pas comme ça, pas en formant des gardiens de la paix 4 mois avant leur sortie d'école. C'est un métier, c'est une spécificité. On ne devient enquêteur digne de ce nom, qui commence à savoir à peu près de quoi il parle, qu'au bout de 5 ans. D'exercice de son métier. Or, ce métier d'investigation n'intéressait pas les politiciens. Vous savez, ça a commencé avec la politique du chiffre, rappelez-vous, dans les années 2000, avec Nicolas Sarkozy, qui voulait du chiffre, du résultat. Sauf que ça s'est fait au détriment de la qualité. Donc, petit à petit, vous avez eu un délitement des vocations, de la technicité, qui a totalement disparu, et on n'en est qu'au début.
C'est-à-dire que, en fait, ce que vous dites, c'est que ces affaires qu'on dit être en stock de violences sexuelles, elles demandent une enquête.
Bien sûr.
Elles demandent de l'investigation.
De la spécificité.
Et donc, ça prend du temps. On l'a mis de côté, quoi, en fait.
C'est pas qu'on l'a mis de côté.
On a priorisé, comme le disait Didier, aussi, la voie publique, le stup, etc., quoi.
Oui, mais pas au niveau des enquêteurs, faut bien comprendre. Vous parlez des stups. Mais il y a régulièrement des priorités. Dès qu'il y a un événement un peu médiatisé, d'une agression, un coup de couteau par-ci, un coup de couteau par-là, un drame, on met la priorité, on met le focus là-dessus. Mais les enquêteurs sont les mêmes. Ce ne sont pas des gremlins.
Concrètement, c'est ça qu'on aimerait comprendre, nous. Concrètement, il y a des dossiers sur lesquels un enquêteur est... Il le met sous la pile et il en ressort un autre parce que le politique a donné des ordres ou parce qu'il y a une affaire médiatisée ou grosso modo les gens ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont.
C'est ça. C'est surtout que vous avez les mêmes enquêteurs dont la pile de dossiers augmente régulièrement. C'est le tonneau des Danaïdes, mais un tonneau des Danaïdes qui déborde aujourd'hui. On est arrivé au bout d'un système. On va parler clair. Le système est à bout de souffle, concrètement. On a joué la montre. Parce qu'il y avait encore des enquêteurs qui étaient à peu près dignes de ce nom. Il y avait encore du monde un peu dans les services dits de PJ. Mais on vous ressort souvent, notamment, les recrutements qui sont faits par le ministère de l'Intérieur et le focus qui est mis. Mais c'est un faux problème, c'est pas vrai. Pourquoi je dis que ça n'est pas vrai? On vous annonce 8000 recrutements. Sauf que dans le même temps, il y a eu 10 000 démissions.
Ça, c'est ce que dit Gérald Darmanin. Il a dit, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai recruté 8000 personnes.
Oui, mais il les a mis où? C'est ça qu'il faut lui poser comme question. Il faut lui demander en parallèle combien il y a eu d'émissions. Qu'est-ce que vous priorisez réellement? Les CRS, le maintien de l'ordre, la brave M.
Alors, ils ont été mis où, les 8000, alors? Ils n'ont pas été mis en investigation, si je voulais dire.
Non, oui, mais on n'a jamais autant connu de démissions, de départs et de reconversions. Soit vers les polices municipales, parce que c'est plus souple en termes d'horaire et même en termes de rémunération. Parce qu'aussi, on ne valorise pas, on a dévalorisé la fonction judiciaire. C'est-à-dire que les meilleurs avancements, les meilleures primes vont vers les services de voie publique, essentiellement le maintien de l'ordre. Vous avancez moins en carrière quand vous êtes enquêteur dans un commissariat.
Alors,
par exemple.
Qu'est-ce que ça t'inspire, Joël, cette histoire?
Premièrement, ça m'inspire que je ne sais pas pourquoi M. Darmanin est encore en poste.
Il doit démissionner.
Il n'aurait déjà plus dû être là depuis qu'on a découvert tout ce qui se cachait derrière l'assassinat de la petite Liana. Je suis désolée, dans ce pays, il faut bien des responsables aux choses, et les responsables ne peuvent pas être les petits policiers. Et pardon, c'est pas dégradant comme ça, mais je veux dire, non, le fonctionnaire qui fait son métier dans le bureau, ça peut pas être toujours lui, en fait. Et là, ce qu'il nous explique, c'est que le responsable, c'est le fonctionnaire dans son bureau. Moi, je peux pas entendre ça. Oui, je peux pas entendre ça, notamment venant de Monsieur Gérald Darmanin, parce que Monsieur Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il est venu sur plusieurs plateaux, on l'a interrogé sur la police, sur les méthodes de la police, etc. Et il a toujours dit qu'il y avait zéro problème avec les méthodes de la police. Donc en fait, pour lui, sous sa direction, en tout cas, il n'y avait zéro problème.
Ça, c'est la règle d'or.
Pas une fois, il a dit, nous avons des soucis en matière de stock de dossiers, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons, de formation. Non, zéro problème avec la police. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il nous balance? Il nous balance un rapport où, oh là là, tous les problèmes sont de la police. Écoutez, il faut aller se balader, enfin, nous les citoyens qui avons affaire au commissariat, etc. Moi, je suis déjà allée en commissariat, même pour porter plainte. Lorsque vous passez derrière, parce qu'il prend votre plainte et tout, enfin, vous sentez quand même que les gens ne travaillent pas dans des conditions optimales.
Avec
vous
des le sentez, ficelle,
ouais, vous le sentez qu'ils sont trois, quatre par bureau. Vous sentez que c'est pas des conditions normales pour traiter les plus gros problèmes de la vie des citoyens. Donc je suis désolée pour Monsieur Darmanin, même si je reconnais dans l'affaire Liana, Monsieur, que il y a eu des problèmes dans comment on a reçu les familles, notamment la maman de la petite Rosa, je crois. Mmh. Où on lui disait d'arrêter d'appeler, etc. Voilà, on sait qu'il y a eu quand même un traitement qui était peut-être des fois inhumain dans le traitement et tout. Mais moi, je mets ça aussi sur le compte. Bien sûr qu'il faut pointer ça, mais il y a aussi le stock, la pression. Moi, par exemple, sur un autre domaine, je travaillais dans le logement social qui est aussi encombré de demandes. Et j'ai toujours dit, quand je suis partie en Île-de-France, on avait 80 000 demandes sur le bureau. Et j'ai travaillé à une période où les gens ne saisissaient pas eux-mêmes leurs demandes, donc nous devions tout saisir à la main. Mais je vous assure, les délais étaient immenses. Les gens se plaignaient parce qu'en fait, ils disaient, mais comment ça se fait que ma demande, je la vois pas en ligne, etc. C'était horrible, la pression. Et donc, vous aviez des collègues, moi je le faisais, mais des collègues qui recevaient mal les gens, qui les envoyaient chier, carrément. Donc, Monsieur Darmanin, il doit pas être là, désolée.
Ça changerait. Alors, excusez-moi, mais je comprends ce que vous dites, et c'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on a, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une responsabilité politique, et pas simplement morale. C'est pas le tout de dire, ouais, on savait pas trop. Non, non. Le problème, c'est que ça servirait à rien. Parce que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un problème de système. Ouais. C'est-à-dire que tant que vous avez un système qui se déculpabilise en permanence, lui, il est en bout de fil, en bout de chaîne, il est entouré de préfets qui ont le même réflexe de dire non, non, mais nous, on maîtrise notre secteur, rassurez-vous.
Oui. Et puis qui ont la trouille de se faire débarquer aussi.
Exactement, on les a menacés. Oui. Moi, j'ai connu des périodes au début du sarkozisme triomphant où il y avait des réunions mensuelles sous l'autorité des préfets. Vous aviez le bonnet d'âne du chef de service qui était distribué si les chiffres n'étaient pas bons. Donc vous avez bien compris que dans cette configuration-là, c'était une course à l'échalote pour présenter des statistiques qui étaient à peu près valables. Donc on est dans cette configuration-là de dire non, non, mais tout va bien, on maîtrise. Parce que vous avez aussi l'arrière-pensée permanente qui est politique. Et là où je veux en venir, c'est que même si demain Gérald Darmanin présente sa démission, on est à 6 mois des élections présidentielles. Vous allez le remplacer par qui?
Oui. Qu'est-ce que ferait les affaires courantes?
Qu'est-ce que ferait son successeur? Dans ses déclarations, il tape sur la police. Alors qu'il n'est pas ancien ministre.
Non, mais ancien ministre de l'Intérieur. On est bien d'accord. Et que comme je vous l'ai dit,
il tape sur ce qu'il a fait.
Et comme je vous l'ai dit, il y a des audits. Il y a des audits. Ouais. Cette situation, cet ouais. état des lieux.
Il la connaissait quand il était
le savait quand il était aux manettes.
Ce que j'explique dans le bouquin, je veux dire, ça tombe pas du ciel. Nous avons plus de 20 ans de désagrégation de la formation et de la matière judiciaire. Quand vous êtes ministre de l'Intérieur, je suis désolé. Si vous savez pas ça, faut aller planter des choux, hein. Bon, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide dans cette matière. Mais à un moment donné, faut se regarder un peu dans la glace, quelque part. Vous savez que ça ne va pas. Vous savez qu'on recrute des gardiens de la paix à 5 et 6 de moyenne. Vous savez que la formation OPJ, elle est laissée pour compte. J'insiste là-dessus parce que c'était mon cœur de métier, on ne recrute plus et on ne forme plus d'enquêteurs spécialisés. Moi, mon rêve serait d'avoir une filière qui existe, une filière réelle de traitement du judiciaire, de la plainte au magistrat, et que cette filière, dans la mesure du possible, soit le plus autonome possible du politique, parce que ça la désengagerait des influences. Mais on en est très loin, puisque tout le monde marche à la baguette. Ouais. Tout le monde marche à la baguette ou sous l'objet de la menace. On parle de ça. On parle de menace. Quand vous faites une procédure que vous estimez... Vous savez que le parquet envoie parfois des dossiers. Écoutez-moi bien, parce que c'est la réalité concrète, là, c'est du terrain. Des dossiers prioritaires pour des contrefaçons de sacs Vuitton. 3 sacs Vuitton. C'est marqué priorité à traiter en urgence. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème ? Alors que par rapport à ça, vous avez des atteintes aux personnes. Je parle même pas d'atteintes à des mineurs. Vous voyez, le sens des priorités, selon que vous soyez nanti ou pas, ouais. Eh bien, il est à géométrie variable. Donc, c'est pour ça que chacun doit se regarder dans la glace, que ce soit au ministère de la Justice.
Donc, il y a une vraie réforme à faire sur la
vraie révolution. Une vraie révolution.
Antoine.
Est-ce qu'on vous utilise pas pour la carrière? Moi, j'ai l'impression quand même que ces politiques, monsieur Darmanin, notamment au ministère de l'Intérieur surtout, utilisent les policiers pour leur carrière. C'est-à-dire que vous êtes un puissant levier pour atteindre un poste de président plus tard.
Oui. Bah, vous avez un exemple célèbre.
Bah, oui, tout à fait.
Il a fait jurisprudence.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez encore aux ministres, à vos chefs, à vos ministres ou pas?
C'est une bonne question. Est-ce que vous croyez aux ministres ou c'est l'administration qui décide?
Je vais vous répondre très clairement. Il y a belle lurette que je ne fais plus du tout confiance aux politiques. Clairement. Quelques ministres que ce soit, sous quelque pouvoir que ce soit. Là, on se focalise sur Gérald Darmanin. On avait eu à l'époque Manuel Valls qui nous avait créé les ZSP, les fameuses zones de sécurité prioritaires sur le quart nord-est de Paris, 18, 19, 20. On sait très bien, en tant que professionnel, tout le monde le savait, que c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que la criminalité s'adapte, elle évolue. Vous mettez de la focale sur un secteur, ils font quoi? Ben, ils vont ailleurs, tout simplement. Et c'est le problème pour les stupes. C'est exactement la même problématique pour les stupes, dont je parle longuement dans le bouquin, où j'explique que c'est insoluble du point de vue strictement judiciaire. Tout simplement, parce que ça répond à une mécanique sociétale qui nous dépasse largement, qui dépasse même le cadre des frontières nationales. Mais si vous focalisez sur le problème avec le petit bout de la lorgnette, vous n'avancerez jamais.
Antoine.
Jamais.
Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur Gérald Darmanin. Je suis effectivement également fasciné par sa capacité à oublier qu'il a été ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'intéresse de manière très concrète, c'est le fonctionnement de l'enquête. Parce que c'est quand même l'endroit où s'entremêle le travail du policier sous la supervision du juge et le commun des mortels. On voit pas comment ça peut se passer. Et pour orienter un tout petit peu ma question, je pense qu'il y a un besoin urgent de réforme de la procédure. Il y a des lourdeurs de procédures qui sont fabuleuses, qui font qu'on y arrive pas.
De l'administratif.
Il y a des moyens, qui s'améliorent. Il y a un problème informatique fabuleux qui n'est pas résolu. Mais il y a aussi un problème normatif où on devrait faciliter l'enquête.
Alors, il y a un double problème à ce niveau-là. Un, l'outil n'est pas suffisamment performant. La latitude d'enquête, elle est très limitée. Pourquoi? Parce que les services de police ont une double casquette. Particulièrement les services enquêteurs. Il y a un, le directeur d'enquête qui reste le magistrat, si vous ne vous rendez compte qu'au magistrat, et puis vous avez l'ordonnateur des moyens, qui est l'administration, le régalien, le corps. Bon, on va faire simple, le commissaire.
Le ministère, ouais.
D'accord. Donc un policier lambda dans un commissariat lambda, il est sous l'autorité administrative et logistique des moyens.
Très clairement, le commissaire lui dit tu passes 2 jours sur cette enquête et tu es surveillé par le magistrat sur les moyens.
Je vais vous faire rire, sourire. Quand je suis arrivé à Neuilly-sur-Seine, on m'a un jour dit tiens, voilà, ça c'est le dossier de X, procureur de la République de Nanterre. C'est son dossier. C'est pas le dossier d'un autre, son dossier. Son dossier, je commençais un petit peu à trembler. Qu'est-ce que c'est? Il y avait 10 plaintes dans ce dossier. C'était des plaintes d'Enjoliveur.
De bagnole?
Oui, monsieur. Parce qu'il occupait une résidence. Et dans la résidence, dans le parking de sa résidence, on volait des enjoliveurs. Donc le dossier, la priorité du procureur de la République de l'époque, c'était
C'est vieux l'histoire alors.
D'enquêter sur ces vols.
Et donc ça veut dire que ça perdure tout ça aussi. C'est le PROC qui décide les dossiers qui sont prioritaires, de là où il faut mettre les moyens.
Il y a une puissance, qui s'exerce. Donc le commissaire, qui est un homme très respectable, avec qui j'avais d'excellentes relations, et voilà, c'est le dossier. Et on avait été reçu avec mon chef d'unité à l'époque par le dit procureur dans son bureau qui voulait faire un point et qui était prêt à ouvrir une information judiciaire sur ces vols de 10 enjoliveurs. Je sais pas si vous réalisez.
Effectivement. Jean-Pierre Colombiès, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Tiens, j'ai une petite question à vous poser.
Il y a des petites, je vais essayer d'y répondre.
Dans un instant, on va parler du crack à Marseille. Ouais. Ça vous dit de rester avec nous et d'en parler 10 minutes, un quart d'heure?
Aucun problème. J'ai travaillé 15 ans à Marseille, et notamment au stup.
On a la bonne personne avec nous. Dans un instant, Marseille est-elle en train de devenir crackville avec ces fumeurs de crack qui rôdent autour de la gare, qui se défoncent à ciel ouvert. Les habitants n'en peuvent plus. Vous venez en discuter avec nous au 32-16 que Marseille appelle les jugés, on a le flic Colombiès qui reste avec nous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Didier Giraud, l'agriculteur, Joël Dagosséry, la coach de vie. Nous sommes avec Antoine Diers, le consultant juridique, Jean-Pierre Colombiès, l'ancien policier, police judiciaire, qui a accepté de rester avec nous quelques minutes parce que on va ouvrir le dossier Marseille et le dossier du crack. Alors, c'est vrai que ces dernières années, je remonte pas aux années 70, hein, quand c'était la French Connection, c'était le trafic d'héroïne avec les États-Unis, mais c'était déjà Marseille. Mais là, aujourd'hui, on a toutes ces dernières années parlé beaucoup de la cité phocéenne avec le trafic de cannabis, avec la DZ Mafia. On se souvient avec les opérations XXL, avec les prises de parole des procureurs, des magistrats aussi pour alerter en disant que les narcotrafiquants avaient beaucoup plus de moyens que les policiers et que la justice. Mais là, il y a un nouveau phénomène qui arrive sur Marseille, qui est en train de monter, qui est en train de s'amplifier. On en parlait avant à Paris avec la fameuse colline du crack. Mais maintenant, à Marseille, c'est justement l'ampleur du crack qui monte avec des fumeurs qui sont aux alentours de 200, 500 personnes qui se défoncent dans la rue. Personne ne nous aide. C'est ce que disent les riverains. La consommation du crack est en forte augmentation. On espérait que la salle de shoot qui devait ouvrir puisse aider. Ça aurait permis de les regrouper, de les tenir, peut-être de les soigner.
Ça les attire,
Sauf que ça n'a pas eu lieu. 10 euros la dose de crack. Est-ce que Marseille est en train de devenir crackville? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier?
Écoute, déjà, moi, je trouve que ça coupe l'herbe sous le pied à tous les légaliseurs, là. Tous ceux qui nous expliquent que quand on aura légalisé le cannabis, on aura terminé nos problèmes avec le narcotrafic. Non. Même si t'as pas légalisé et même si t'aurais légalisé, à un moment donné, le trafic est si lucratif qu'à un moment donné, les gens ils vont toujours plus loin dans le trafic. Et moi qui ai pu croire que les salles de shoot c'était quelque chose qui était plutôt pas mal pour avoir un contrôle. Finalement, ce qu'on s'aperçoit quand on lit le truc là, c'est que ça a plutôt un effet d'attirer les gens. Et, alors certes, ça les regroupe, mais ça les attire. Et à un moment donné, je pense qu'il y a un vrai problème d'insalubrité pour ceux qui vivent autour, quoi.
À la fois de sécurité, on est à l'abandon, quoi. Il faut venir nous aider.
Mais je suis pas sûr que la mairie de Marseille a pris la mesure du truc, quoi. Je suis pas sûr que c'est la mairie de Marseille qui va résoudre le problème, quoi. Je sais pas. C'est à qui de résoudre le problème, en fait, quoi.
Joël.
Alors, moi, pour y aller très souvent à Marseille, c'est vrai que j'ai pas encore observé les fumeurs de crack. À Paris, si, il y a beaucoup de zombies, mais à Marseille, j'en ai pas encore vu. Alors oui, c'est vrai, autour de la gare, tu peux avoir des SDF, des gens qui sont un peu trucs, mais des fumeurs de crack, j'ai pas encore vu. Bon, quand j'y retournerai, j'ouvrirai mieux l'œil. Mais moi, cette ville, je comprends pas. Pour moi, ça devait être Miami, cette ville. Enfin, je veux dire, en termes de potentiel, tourner vers la mer.
Miami Vice.
Pas dans ce sens-là. c'est une très grande ville. Elle est tournée vers la mer, sur la Méditerranée, donc un peu internationale, etc. Enfin, il y a des capacités. Ça devait être pour moi Miami dans le sens innovation, dynamisme économique, etc. Et plus les années passent et plus tu vois que ça s'enfonce. Il faut aller sur des poches de quartier pour être tranquille. Bah oui, c'est sûr, si tu vis au Roucasse Blanc, oui, bah ouais, t'es, c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut aller sur des poches de quartier pour être tranquille. C'est dommage. Enfin, vraiment, j'adore cette ville. J'y vais très souvent. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi dans les municipalités, les différentes, à en faire. Mais quelque chose presque à équivalence avec Paris, mais avec un truc un peu plus fun, mais parce qu'il y a la mer, tu vois. Voilà.
Ce qui est terrible, c'est que je lisais un petit peu là sur les réseaux, etc. Ils disent, mais il y a de la demande. Tu vois, à 10 balles la dose, quoi. T'imagines, 10 balles la dose de crack. Il y a de la demande, il y a un trafic qui va arriver en explosant. Alors là, pour le moment, c'est concentré.
Prospère, ça prospère.
Ouais, qui est concentré autour de la gare. Alors les riverains, on les aide comment? On fait quoi, Jean-Pierre?
Alors, on va être très clair. Enfin, moi, je connais bien le secteur puisque. Vous avez jamais pris le train à la gare Saint-Charles?
Si.
Oh, si.
Oh,
si,
mais on voilà. Bien, on est bien d'accord, c'est la cour des miracles.
Faut y aller beaucoup pour se rendre compte du problème.
J'avais travaillé notamment sur l'affaire du tueur des trains. Je sais pas si vous vous souvenez, Sidamed Rezala, oui. Le tueur des trains, et on avait enquêté, notamment sur ce milieu interlope qui est, enfin, il y a de tout, là. Et beaucoup de mineurs, d'ailleurs. Beaucoup de mineurs qui se prostituent, qui consomment de la drogue, des stupes. Et c'est pareil. Voilà. On n'a pas mis la focale là-dessus. On a laissé la situation se dégrader, parler de la solution de la mairie, mais je sais pas quel problème la mairie a réglé depuis plus de 30 ans. Il y a un désintérêt. On dit Crackland, mais c'est pas Crackland, Marseille. C'est Drogland. C'est pas tout à fait la même chose. C'est des quartiers entiers qui sont sous la mainmise des gangs.
Mais le crack, c'est nouveau, là.
Oui, mais parce que c'est pas cher. C'est la drogue du pauvre. C'est une drogue qui est dégueulasse. On tombe tout de suite accro. Et c'est vraiment la sous-drogue, en quelque sorte. Elle est effectivement très accessible. Elle est pas chère. On tombe accro immédiatement. C'est pour ça qu'on l'avait développé aux États-Unis d'ailleurs, pour, je dirais, mettre de côté toute une frange de la population qu'on voulait affaiblir. Donc il y a aussi une arrière-pensée sociétale. Donc c'est très complexe. J'ai travaillé au stup à Marseille, je suis marseillais. Donc je connais bien la ville, je connais bien l'évolution en matière de stup. On s'est totalement désintéressé du sujet. Donc au bout d'un moment, là encore, on va pas jouer, parler des opérations XXL que j'avais dénoncées notamment sur vos plateaux. Ça m'a valu des inimitiés, pour être tout à fait clair. Où j'avais expliqué que ça servait strictement à rien.
Ouais, mais il y a pas de fatalité. Je veux dire, il y a pas de fatalité.
Donc on fait
Marseille sur la drogue langue.
Moi, j'ai connu l'évolution des stupes de 1985 à aujourd'hui, où on avait quand même l'époque de l'héroïne, du sida, et comment on a calmé le jeu avec l'héroïne, bah, tout simplement en orientant l'usage vers un aspect médical. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est la neutralisation des toxicos lourds, c'est-à-dire de ceux qui vraiment ont besoin, qui ne font que ça. C'est-à-dire qu'un craqueux ou un héroïnomane, ils ont le même point commun, c'est de ne vivre que pour ça.
Ouais.
D'accord? Ils n'ont pas d'espace social. Rien. Et il faut préserver. Alors, on dit, eux, ils sont malades, faut les soigner. Oui, ok, peut-être. Mais moi, je pense aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, au voisinage. Bon, c'est à eux que je pense. Oui. Et c'est ça qu'il faut neutraliser. Et c'est
donc,
ça qu'il faut
concrètement.
Préserver.
Concrètement.
Mais ça, c'est les policiers. Il faut donc plus de policiers.
Vous voulez une brute?
Ben oui.
Leur donner. Les accueillir dans des centres. On parle de salles de shoot, mais il faut quelque chose d'encore plus développé. Des centres d'accueil. On les met dans un endroit où on puisse les avoir sous la main.
De manière coercitive. Ce qui, dans notre réglementation actuelle, n'est pas possible, quoi.
Non, mais c'est ça le problème.
Donc, je vous suis là-dessus. De manière coercitive. Oui. On prend le camé de la rue et on l'emmène pour le soigner. Voilà. Et ça, faudra qu'on l'accepte. Et ensuite, pardon, mais il y a bien des gens qui vendent ce crack.
C'est facile à faire, le crack. C'est pas.
Il faut les arrêter.
On peut arrêter tous les vendeurs.
Ça n'empêche pas.
Et aujourd'hui, ils sont condamnés à quoi?
Pas grand chose.
Pas grand chose. Eh ben, si déjà ils étaient condamnés à de longues peines, qu'on les sortait du système, on éviterait peut-être de voir toutes nos.
Si vous enlevez déjà les craqueux, vous cassez le système de revente. Hein,
oui, mais il y en aura d'autres.
Il faut générer à la demande, quoi, en fait.
Oui,
c'est
bien
ça. Il faut taper les consommateurs, les prendre en main.
On n'a jamais voulu faire sur le cannabis.
Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est diffus, le cannabis est devenu, pas comme la clope,
normal.
Mais pas loin.
Ah, tiens, on a un coup de fil qui vient de Marseille, c'est Benjamin qui est diagnostiqueur immobilier et qui veut intervenir dans les GG. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin.
Bonjour les GG.
Bonjour. Oui. Vous l'avez vu cette montée du crack à Marseille, là où vous la constatez?
Alors ouais, moi je tourne pas mal dans Marseille par mon métier qui est mobile et qui m'entraîne dans des déplacements un peu partout dans la ville. Alors, je n'aurais pas l'expertise de l'auditeur précédent qui a un vécu Mais bon, c'est vraiment une expérience que j'ai vue de mes yeux il y a quelques semaines de ça. Je travaillais vraiment en face de la gare Saint-Charles. Pour ceux qui connaissent, il y a les grands escaliers qui descendent et qui desservent ensuite, qui descendent sur la Canebière. Donc, je travaillais sur un immeuble qui est en face de la Canebière, de la gare Saint-Charles, pardon. J'ai commencé à entendre des cris. Donc, par curiosité, je suis sorti parce que c'était vraiment des cris très très violents. Et j'ai vu deux sans-abri, deux SDF. En tout cas, ils avaient l'air d'être des SDF, qui s'écharpaient un sac en plastique. Ça avait l'air anodin. Bon, ils avaient pas l'air d'être eux-mêmes, quoi. Ils avaient l'air d'être un petit peu shootés. Bon, jusque-là, il n'y avait rien de spécial. Et puis ça a vraiment viré quand il y a trois autres personnes qui sont arrivées, qui s'en sont pris. Un des deux, ils ont choisi leur camp, on va dire. Je ne savais pas pourquoi, je ne connais pas la raison. J'ai juste assisté à la scène d'un balcon. Et puis, ils se sont retrouvés à 3-1. Celui qui était seul a dû lâcher le sachet.
C'était un sachet avec du crack dedans, sûrement, alors, c'est ça, ouais.
Bah, impossible de savoir.
Ils se battaient comme des bêtes pour de la cam, quoi.
Alors, c'est simple. C'était une agression, mais d'une violence inouïe. C'est-à-dire que le bonhomme qui s'est retrouvé tout seul a été mis par terre. Et là, les trois lui sont tombés dessus, mais à coups de pied, ils ont bastonné dans les règles, quoi. À coups de pied dans la bouche, dans le ventre. Et personne ne réagissait autour. Il y avait des zombies. C'était des zombies autour. J'ai poussé un cri parce que je savais pas quoi faire d'autre. Ils se sont arrêtés un instant. Ils ont regardé en l'air d'où venait le cri. Mais on voyait dans leurs yeux, on voyait un vide, le néant, quoi. Le néant.
Et il y en a beaucoup autour de la gare, ou il y en a beaucoup autour de la gare, il y en a de plus en plus ou pas?
Après cet épisode-là, ça m'a tellement choqué que j'ai observé autour. Et en fait, c'est rempli de mecs shootés au crack qui errent. Mais il faut le voir, ça ressemble à un film d'horreur. Ils errent dans la rue, aux abords de la gare.
Mais donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On les interpelle, on les met à l'hôpital, ou on les laisse. Alors,
si on fait rien, c'est un moment
ils vont crever sur le trottoir. Ils vont crever devant tout le monde. Et c'est ce qui va se passer.
Je rappelle qu'il y a eu des morts.
Le risque, c'est les overdoses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une rue adjacente à cette place où l'agression s'est passée, il y a un centre de traitement des addictions qui est connu dans le centre-ville de Marseille. Il y a quelques semaines, il y a très très récemment, quoi, c'est au début de l'été, ce centre a été fermé pour insalubrité. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui étaient un petit peu en souffrance, qui essayaient de s'en sortir malgré tout, pouvaient trouver refuge dans cet abri, qui était crade, qui avait l'air crade. Quand on passe devant, encore une fois, par mon travail, je me trouve dans des endroits des fois pas très agréables. Mais quand on passe devant, on se rend compte que c'est pas clean, mais malgré tout, ça servait, je pense, d'abri à certaines personnes qui essayaient de s'en sortir. Et là, le centre a été fermé pour insalubrité. Ça veut dire que même les personnes qui avaient la volonté d'essayer de s'en sortir, ou à qui on avait donné des conseils d'aller consulter là-bas, maintenant ne peuvent plus.
Alors, Benjamin, il y a Antoine qui voulait réagir à ce que vous disiez.
Ouais. Enfin, moi, je pense surtout aux riverains. C'est-à-dire que, oui, il faut aider le drogué, mais je pense surtout aux riverains. Vous l'avez décrit, vous, c'était votre travail, vous étiez là quelques heures. Mais tous ceux qui vivent à cet endroit-là, quand on était allé à Marseille, j'avais croisé une auditrice qui vit exactement à cet endroit-là. Donc, je pense à elle. Mais ne serait-ce que parce que l'État doit la tranquillité de vie à chacun. Il y a une responsabilité de l'État vis-à-vis. Voilà, ils payent des impôts, exactement. Et si on veut pas qu'ils s'arment eux-mêmes, qu'ils fassent la police en bas de chez eux, bah l'État doit intervenir, ne serait-ce que pour assurer la tranquillité des riverains. Et partout, à Marseille comme ailleurs, on ne le fait pas. Je dis pas que c'est simple d'aller les
questions. On interpelle, on met à l'hôpital, on met en prison, ça sert à rien. Oui, mais alors on les laisse dehors.
Il n'y a plus de place à l'hôpital psychiatrique.
On doit être prêt à prendre le drogué et le mettre dans un grand centre à la campagne, prendre contre son gré.
Trop facile à la campagne.
Mais
quoi,
non,
trop facile.
Pas chez toi.
Fous chez les autres. Si, non, mais tu comprends.
Moins gênant, quoi.
On ferme le centre en centre-ville parce qu'il est insalubre, mais on va les foutre à la campagne.
Enfermé, on va pas les libérer chez toi, rassure-toi. Enfermé. Ça fera de l'emploi dans les campagnes qui ont
le temps. La construction du centre, je t'annonce qu'il y a un comité d'organisation qui est contre.
Oui, qui va être contre parce que.
Je rappelle quand même que pour se fournir du crack ou quelques cams que ce soit, il faut avoir une activité qui ne soit pas professionnelle. Donc c'est simple, c'est ou le vol, ou la prostitution, ou les agressions physiques. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même un monsieur de 90 ans qui s'est fait agresser par un craqueux, il en est mort. Donc c'est pas juste une vision de l'esprit. C'est pour ça que quand j'entends les bonnes âmes associatives dire ah oui mais effectivement ce sont des malades, il faut les aider, nani nana. Non, je suis désolé, il y a un problème majeur. Il faut, pour ce que on évoque depuis tout à l'heure, ça nécessite avant tout du courage politique de réformer la loi et de mettre en place un contexte juridique qui protège les riverains tout simplement, qui payent des impôts, qui ont à qui on doit la tranquillité, la protection, même pas la tranquillité, la protection. C'est le rôle de l'État.
Merci Benjamin de nous avoir fait ce constat sur ce que vous avez vu à Marseille. Merci Jean-Pierre Colombiès d'être resté quelques minutes avec nous, l'ancien policier, police judiciaire. Dans un instant, on va regarder ce qui s'est passé dans la Vienne. La mairie de Boivre-la-Vallée qui a pris un arrêté contre les aboiements de chiens. Est-ce qu'elle a eu raison, la maire? Allez, à tout de suite avec les grandes gueules au 32-16. Il est midi moins 20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Gégé, vous continuez de discuter en direct sur RMC, RMC Story avec Joël Dagosséry, Didier Giraud avec Antoine Diers. Et on va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de Boivre-la-Vallée dans la Vienne avec cet arrêté anti-aboiement. On va laisser Madame la maire, Madame Audevert, l'expliquer.
Lorsque les chiens se mettent à aboyer des nuits entières, en particulier en période de canicule, lorsque les gens dorment fenêtres ouvertes, là ça ne devient plus supportable. Les habitants de ma commune étaient excédés. L'appel des habitants me semble aussi primordial. Je pense que les systèmes de colliers anti-aboiement ont fait leurs preuves, sont très efficaces, et les équiper leurs animaux de ce système peut être une très très bonne solution.
C'est quand même dingue en fait. Tu sais, d'entendre Madame la maire dire voilà ce que devraient faire les gens, quoi, tu vois, et de passer par symboliquement cet arrêté anti-aboiement. Alors c'est pas la première fois que c'est pris en France. Parce que, bon, comme on le dit, on ne peut pas empêcher un chien d'aboyer, je le sais bien avec la mienne. Mais dans cette commune de 3000 habitants, il y en avait un paquet de riverains qui en avaient ras-le-bol. Hein? Fenêtres ouvertes, portes des maisons ouvertes, parce que les chiens, la nuit, tout le monde dort mal. Et les chiens se mettaient à aboyer. Là, normalement, ils auraient dû dormir. Donc, Madame la maire a dit, comme quand tout le monde est au bord de la crise... Excusez-moi, quand tout le monde est au bord, merci, de la crise de nerfs, il faut prendre une décision. Et l'arrêté municipal, ça permet quoi? Ça permet de faire intervenir éventuellement la maréchaussée ou de pouvoir agir en tant qu'élu. Qu'est-ce que vous en dites, Joël? Qu'est-ce que tu en penses?
Je ne sais pas si la maréchaussée, les policiers, de la commune n'ont pas d'autre chose à faire que d'intervenir sur des chiens. Je me demande.
La tranquillité des voisins, c'est important.
Je comprends.
Ça te gâche la vie, hein.
Je comprends parfaitement, parce que la solution, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est quoi l'outil de mesure? Je veux dire, au bout de combien de waf-waf? mais c'est ça, faudrait.
L'arrêté s'applique.
Est-ce qu'il y a il y a un quota de waf-waf? Qui mesure le nombre de waf que le chien du voisin a fait? Enfin, je veux dire, tu vois, c'est vraiment compliqué, je trouve, de ce genre d'arrêté et tout. Même si je le comprends, maintenant c'est la responsabilité du maître aussi. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour que le chien aboie moins. Est-ce que le maître, je sais pas, est-ce qu'il s'en est bien occupé? Est-ce qu'il a sorti? Est-ce que il y a plein de trucs comme ça? Mais vraiment, je suis toujours effarée par les motifs d'arrêter. Des fois, ça me dépasse. Donc voilà.
Didier.
Moi, je crois que les maires sont le réceptacle de choses qui les dépassent parfois. Enfin, dans ces histoires-là. Il y a souvent des conflits de voisinage. Il y a souvent le pédigré des gens qui sont les propriétaires des chiens, qui sont incapables de gérer des chiens. Enfin, tu vois, en arriver là, je pense qu'on n'a pas toute l'histoire. Voilà. Je pense qu'on n'a pas toute l'histoire et que toute l'histoire en entier, tu verras qu'il y a ou un conflit de voisinage ou des gens qui devraient pas avoir des animaux. Moi, je l'ai déjà dit, il va bientôt y avoir des permis pour avoir des chiens. Parce que avoir des animaux,
peut-être qu'il y a trop de chiens en France aujourd'hui.
Non, mais
trop de chiens.
Moi, ça fait 30 ans que je suis dans une ferme. J'ai jamais acheté un chat. il y a toujours eu des chats. Et je peux te dire que les renards, ils en mangent. Ils en mangent leur sou. Mais il y a toujours eu des chats. Et il y a des chats qui sont des chats domestiques. Qui sont cons comme des chats domestiques, quoi. Qui vivent sur le canapé avant que les gens les déposent dans ma cour de ferme. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut un permis pour avoir des animaux. Pas loin de moi de croire qu'il faudrait un permis pour faire des enfants, mais enfin, c'est un autre sujet. Non, mais je pense qu'il y a un moment donné, dans ces histoires-là, il y a des gens qui sont pas foutus de s'occuper d'animaux, voilà. Des gens, dès qu'ils sont éleveurs de chiens, qui font
produire... Parce qu'elle disait, acheter des collets anti-aboiement, et puis ça réglera le problème, quoi. Voilà.
Je sais pas si c'est efficace, moi, je suis pas fan de ça, mais je sais pas, mais le chien... De toute façon, c'est une éducation comme un gosse, hein, de toute façon.
Mais c'est la même chose. Au-delà de l'arrêter, c'est déjà interdit de laisser un chien aboyer toute la journée. Les nuisances nocturnes et diurnes sont interdites. Donc là, l'arrêter, ça sert à mettre en lumière le sujet.
Ça lui donne peut-être les moyens d'agir.
Bah, oui, c'est ça. Bah, bien sûr que ça. Ouais. Ça lui donne un cadre
légal. Ouais, enfin, si le chien l'aboie toute la nuit, elle a les moyens d'agir sans l'arrêter.
Tu peux appeler.
Ça lui donne les moyens de médiatiser l'affaire.
Voilà.
Donc, pas loin de moi,
tu peux t'abriter derrière l'arrêté en disant, écoutez, la fourrière. Voilà, désolé madame.
Non.
Monsieur, il y a un arrêté municipal. Tu peux pas faire ça?
Je suis pas sûr.
Ça n'arrivera pas là dans une commune de
30. Non, mais je dis, ça donne. Le maire peut toujours se dire.
Une amende, non?
Pour le maire. Ou une amende, puisqu'à partir du moment où il y a un arrêté, il y a une contravention derrière, il y a une amende.
L'arrêté municipal, c'est pas le maire qui peut mettre une amende pour non-respect. C'est-à-dire que tu crées une base légale, mais tu dois porter plainte contre le détenteur du chien, et c'est pas le maire qui va pouvoir mettre une amende tout de suite. Si ça pouvait fonctionner aussi rapidement que ça, ce serait pas mal. Mais je pense surtout qu'en réalité, c'est pour mettre la pression sur quelques personnes dans le village qui doivent avoir des chiens qui laissent aboyer, et ils vont leur mettre la pression.
D'accord, mais comme le disait Joël, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est obligé d'en arriver là, quoi? C'est le manque de respect vis-à-vis d'autrui, tu vois, de toi-même. Mais tu dis, oh merde, il fait chaud, je suis à la campagne, ça aboie, et puis je m'en fous.
C'est-à-dire peut-être qu'il y a des maîtres qui, pour eux, le chien, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est bon, il aboie, en fait, c'est normal. Il y a aussi des parents qui disent, un bébé, ça pleure, ou un enfant, ça pleure, ou un enfant, c'est agité, et qui considèrent que c'est normal que l'enfant soit agité, et voilà. Et je suis sûre qu'il y a des maîtres qui considèrent que, un chien, ça aboie. Voilà, et que ça aboie toute la nuit, exactement. Donc je pense ça, et
je te dis, il nous faudrait avoir le fin mot de cette histoire.
Ça soit au cœur d'un conflit de voisinage, c'est vrai, surtout dans les petites communes, quand t'as 3000 habitants où tout le monde se connaît, il y a peut-être un règlement de compte, peut-être, mais au milieu de la nuit, reconnais que quand t'as des chiens qui aboient, et ça doit pas être des coquers à mon avis, ou même si c'est des coquers, c'est quand même pénible, quoi, surtout déjà que tout le monde a du mal à trouver le sommeil avec la canicule. On a Nathalie qui veut intervenir, elle est en Corrèze. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ça vous fait réagir cette histoire d'aboiement et d'arrêté municipal? Pourquoi?
Moi, ça me fait réagir parce que j'ai eu le cas à la maison. Moi, j'ai le maire qui est venu à la maison parce que mes chiens aboyaient la nuit. Donc, on est excentré parce que j'ai beaucoup d'autres animaux. J'ai des ânes, j'ai des coqs. Jamais c'est plein de l'âne. Pourtant, un âne, je peux vous dire, c'est pas un chien. J'ai acheté des colliers anti-aboiement. J'en ai 9 chez moi. De colliers anti-aboiement. Ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on peut dire. Ça, c'est la première des choses. Après, quand on est en ruralité, du gibier, il y en a. Donc moi, je dis aboiement des chiens réduit au silence, ok. Et le décret anti-con, jamais. Parce que là, franchement, c'est déconné. Les chiens, ils font leur boulot. Ils me chassent le gibier parce que j'ai énormément de fruitiers et tout ça. Ils chassent le gibier. Donc, c'est sûr que quand ils courent après du gibier,
oui, mais ça, c'est la journée, c'est pas la nuit. Vos chiens n'aboient pas au milieu de la nuit.
Ah, c'est la nuit. Le gibier, il vient pas la journée, il vient la nuit.
D'accord, mais vous avez des voisins à côté de vous?
Ah ben, moi, j'ai des voisins à 800 mètres. Ils se sont plaints.
Le maire est venu à la maison. Ouais, mais voyez bien. Il faut, ces histoires-là, il faut trier le vrai du faux.
Et voilà.
Qu'en est-il réellement de la nuisance?
Allez-y, Nathalie.
Voilà. Moi, le maire est venu à la maison. On leur a dit, ok, les chiens aboient, vous n'êtes pas contents. On vous donne le fusil, vous les tuez. Le maire m'a répondu, mais on ne va pas en arriver là. Et tu veux faire comment? Va faire taire un chien, va faire taire un âne. Moi, j'ai un âne. L'âne, il est né la nuit quand il y a du gibier. Pareil. Jamais personne ne s'est plaint de mon âne. Jamais personne. Donc, à un moment donné, moi, je vous dis honnêtement, tous ces gens-là qui sont contre les aboiements de chiens, un chien, ça aboie, eh ben ouais. Ben ouais.
Enfin, normalement, d'accord, mais enfin, au milieu de la nuit, normalement, déjà, les humains dorment. Et le chien, il est pas prioritaire sur les humains. Le chien, la nuit, soit vous le mettez dans sa niche, soit vous le mettez dans un endroit. Mon grand-père avait deux chiens, les chiens, ils n'aboyaient pas la nuit, quoi. Ou alors, c'était qu'il y avait une intrusion.
Moi, mes chiens ont tous une niche, ils aboient quand même. À un moment donné, faut arrêter. Quand ils défendent, le terrain, c'est leur propriété, ils défendent. C'est assez pareil, les gens qui dorment les fenêtres ouvertes. Eh ben, vous savez quoi? Il y a le truc de l'isolation, là. Ils ont qu'à isoler leur maison, ils ferment leurs fenêtres.
Est-ce que vous avez fait une rencontre avec vos voisins, pour essayer de vivre en bonne
santé? Ils sont jamais venus. Ils ont jamais osé venir. Jamais. Ils
sont partis. Bouffés par les chiens.
Ils sont jamais venus. Non, parce qu'on a dit au maire, ok, ça aboie, ok. Comment tu veux que je fasse faire mon chien? On le lui a dit au maire. On lui a dit, on a acheté des colliers anti. Ça marche pas. Pas aussi bien que ce qu'on. Voilà. Et ça coûte un œil, hein.
Vous avez beaucoup de chiens?
J'en ai trois.
Ouais. C'est quoi comme chien?
Ah ben, j'ai un border collier, un chien à mouton et un
berger des Pyrénées. Ouais,
vous avez des belles bêtes. Alors Nathalie, on va écouter Jean-Marc.
Ils sont là pour faire leur
Attends, bouquin. Jean-Marc est des Deux-Sèvres. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour à toute l'équipe.
Vous avez eu des soucis de nuisance avec des clébards, vous aussi? Pardon, avec des chiens?
Avec des chiens, oui, complètement. Alors moi, j'ai pas de soucis avec les chiens parce que j'aime les animaux. J'ai des soucis avec les maîtres qui ne s'occupent pas forcément de leurs chiens.
Voilà.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors?
C'est toujours ça. Alors, disons que c'est aussi bien la journée que la nuit. Vous avez donc tous subi les canicules. On laisse les fenêtres ouvertes pour refroidir les maisons. Enfin, voilà, etc. Et donc, en pleine nuit, le chien, il aboie. Mmh. Donc, moi, plusieurs fois, alors, cette personne-là, nous avions déjà été avec les voisins à l'interpeller sur différents sujets, parce que généralement, c'est toujours la même personne sur différents sujets. Et donc là, personne dans la maison, le chien qui aboie, j'appelle la gendarmerie. La gendarmerie me dit, eh bien non, écoutez, on ne se déplace pas, voyez ça, avec la mairie. Je lui dis, oui, mais la mairie, je l'interpelle, elle non plus, ne se déplace pas, ne vient pas voir le propriétaire. Donc voilà, donc plusieurs fois, j'ai appelé la gendarmerie, je leur ai demandé au moins de notifier l'appel. Ils étaient témoins par le téléphone des aboiements.
Ouais. Ça a coupé. Bon, écoutez, Jean-Marc, Jean-Marc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie encore Nathalie, c'est vous qui aurez conclu notre journée notre matinée de discussion. Est-ce que la mère a eu raison? On va regarder vite fait la consultation. La mère a eu raison de prendre cet arrêté. Vous dites non à 60%. Donc, je pense que c'est plutôt pour dire c'est de la responsabilité des maîtres. Ça vaut pas un arrêté municipal. Allez, on se retrouve demain. Demain, Antoine Dier sera avec nous avec Abel Bouilly, l'éducateur, Laura Vartron-Martinez, la sophrologue. Vous avez les podcasts à votre disposition pour la session de rattrapage et les cours de drague des GG. Ça, je vous laisse découvrir ça dans les podcasts. Bonne journée et à demain.
RMC, 9h midi. Les grandes.